Bonjour à chacun. Avant de vous lire quelques versets dans la parole de Dieu, j'aimerais vous lire une fable de La Fontaine. Le renard et le bouc. Capitaine Renard allait de compagnie avec son ami bouc des plus hauts encore nés. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez. L'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là, chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment tous deux en eurent pris, le renard dit au bouc : Que ferons-nous, compère ? Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. Lève tes pieds en haut et tes cornes aussi, mets-les contre le mur, le long de ton échine, je grimperai premièrement, puis sur tes cornes m'élevant, à l'aide de cette machine, de ce lieu je sortirai. Après quoi, je t'en tirerai. Par ma barbe, dit l'autre, il est bon, et je loue les gens bien sensés comme vous. Je n'aurai jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. Le renard sort du puits, laisse son compagnon et vous lui fait un beau sermon. Un beau sermon pour l'exhorter à patience. Si le ciel t'eût, dit-il, donné par excellence autant de jugement que de barbe au menton, tu n'aurais pas à la légère descendu dans ce puits. Or, adieu, j'en suis hors. Tâche de t'en tirer et fais tous tes efforts, car pour moi, j'ai certaines affaires qui ne me permettent pas d'arrêter un chemin. En toute chose, il faut considérer la fin. Maintenant, je passe à une autre lecture. Dans le livre de l'Ecclésiaste, je vais lire quelques paragraphes. D'abord au chapitre 5, les versets 17 à 19. Voici ce que j'ai constaté. Le bonheur qui convient à l'homme est de manger, de boire et de jouir de ce qui est bon au milieu de son travail qui lui donne tant de peine sous le soleil, pendant les jours que Dieu lui donne à vivre. C'est là ce qui lui revient. En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, de retirer ce qui lui revient et de trouver de la joie dans son travail, c'est un don de Dieu. Car lorsque Dieu remplit son cœur de joie, cet homme ne s'appesantit pas sur sa vie. Au chapitre 7, les versets 1 à 14. Mieux vaut un bon renom qu'un parfum raffiné, et le jour de sa mort est préférable à celui de sa naissance. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans celle où l'on festoie, car celle-là nous rappelle quelle est la fin de tout homme, et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. Mieux vaut la tristesse que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. L'attention du sage se porte au lieu où l'on pleure un deuil, celle de l'insensé au lieu où l'on se livre à la joie. Mieux vaut écouter les critiques d'un homme sage que les flatteries des insensés, car les rires de l'insensé sont comme le crépitement des épines sous une marmite. C'est aussi quelque chose de dérisoire. L'oppression rend le sage insensé et les cadeaux lui font perdre la tête. Mieux vaut l'aboutissement d'une entreprise que son début. Mieux vaut un esprit patient que prétentieux. Ne t'irrite pas trop vite, car c'est dans le cœur des insensés que la colère élit domicile. Garde-toi de dire comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui, car ce n'est pas la sagesse qui te dicte cette question. La sagesse vaut mieux qu'un héritage. Elle est avantageuse pour ceux qui voient le soleil. La protection qu'offre la sagesse est comme celle que procure l'argent, mais la sagesse a un avantage. Elle fait vivre ceux qui la possèdent. Considère l'œuvre de Dieu. Qui donc pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un et l'autre, si bien que l'homme ne peut rien découvrir de ce qui doit lui arriver. Et encore un peu plus loin, au chapitre 9, les versets 7 à 10. Va, mange ton pain dans la joie, et bois de bon cœur ton vin, car Dieu prend plaisir dès maintenant à ce que tu fais. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que le parfum ne manque pas sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vaine existence que Dieu t'accorde sous le soleil. Oui, pendant tous ces jours dérisoires, car c'est là la part qui te revient dans la vie, au milieu de tout le travail pour lequel tu te donnes de la peine sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as, car il n'y a plus ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts vers lequel tu es en route. Et enfin, au chapitre 11, à partir du verset 7. Douce est la lumière, et il est bon de voir le soleil. C'est pourquoi, si l'homme vit de nombreuses années, qu'il les passe toutes dans la joie, mais qu'il n'oublie pas que les jours sombres seront nombreux et que tout ce qui est à venir sera découvert. Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Livre ton cœur à la joie au jour de ta jeunesse. Suis donc les élans de ton cœur et tout ce qui te fait plaisir, mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais. Bannis le chagrin de ton cœur, écarte la souffrance, car la jeunesse, comme l'aurore, passe bien vite. Tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse, avant que ne t'adviennent les jours mauvais, et avant que ne viennent les années dont tu diras « Je n'y prends pas plaisir ». L'Ecclésiaste, le sage de l'Ancien Testament, nous étonne souvent. Son enseignement, sous forme de proverbes, de sentences, est d'allure paradoxale. Dans les proverbes, nous trouvons à la suite l'un de l'autre ces deux versets « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie » et au verset suivant « Réponds à l'insensé selon sa folie. » Contradiction apparente. Dans notre lecture de ce matin, nous avons relevé un autre paradoxe. Jeune homme, livre ton cœur à la joie. Et mieux vaut la tristesse que le rire. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans celle où l'on fait la fête. S'il faut écouter les conseils du sage pour bien vivre, que faire ici? Se réjouir ou pleurer? Rechercher la joie ou la tristesse? Où est le chemin de la vie? La joie est-elle bonne, salutaire ou mauvaise, dangereuse, séductrice? un des sujets du bac philo de cette année, c'était la joie et le bonheur. Et la question était à peu près ainsi formulée. Pour trouver le bonheur, faut-il le rechercher ? Oh, je n'ai pas l'intention de traiter sous cette forme cette question. Pardon ? Trois heures, oui, alors il vaut mieux que je ne m'y embarque pas. Je vous plaindrai à ce moment-là avec la chaleur qu'il fait. 3 heures. En tant que chrétien, à ces questions, nous avons évidemment une réponse immédiate. C'est celle de la joie spirituelle. Du « réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, dit l'apôtre, « réjouissez-vous ». Mais ici, dans le texte de l'Ecclésiaste, les sources de la joie sont bien celles de tous les biens de la vie. Les fruits de la nature, du travail, la famille, l'amour, l'amitié, et même le fait de faire du bien, l'entraide. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, dit aussi l'apôtre Paul. Et puis, cette parole bien connue, adressée à tous les jeunes, profitez de toutes les joies que la vie vous offre avant que viennent deux réalités qui ne manquent pas d'arriver. Les mauvais jours et l'affaiblissement de la vieillesse qui nous entraîne à peu près inéluctablement vers le pessimisme. Avant que viennent les jours où tu diras « je n'y prends plus de plaisir ». Arrêtons-nous d'abord sur le fait incontestable que la joie est un don de Dieu, un don que Dieu fait à tout être humain. Dieu a fait la joie pour l'homme et l'homme pour la joie. Alors, j'emploie le terme « homme » dans le sens traditionnel, biblique, et celui dont nous avons l'habitude. Je sais qu'actuellement, on s'oblige à corriger en disant « hommes et femmes » en pensant qu'on parle que des hommes masculins. Mais je rappelle, André Loverini nous l'a dit assez souvent, qu'il y a deux sens au mot « homme », il y a le masculin bien sûr, et il y a le mot générique qui signifie « humanité ». Alors, vous me pardonnerez, mais je ne ferai pas chaque fois l'adaptation. Donc, Dieu a fait la joie pour l'homme, et l'homme pour la joie. C'était le but de Dieu en créant l'être humain. Son intention, dès le fait qu'il a installé l'être humain dans le jardin d'Éden. Et du jardin d'Éden à la terre promise, du jardin d'Éden à Canaan, à toutes les étapes de l'histoire, du commencement jusqu'à la fin, Dieu crée son peuple pour la joie. Et c'est même encore plus grand que cela. C'est que cette joie dans laquelle l'homme est amené à s'épanouir selon le dessein de Dieu, cette joie de l'homme fait la joie de Dieu. Ton peuple fait ma joie, dit Dieu. Mon peuple fait ma joie, dit Dieu. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi le peuple fera la joie de son Dieu. Écoutez ce texte dans le Deutéronome. Vous et vos familles, dit-il à toutes les familles d'Israël, vous et vos familles, vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels votre Dieu vous aura béni. La bénédiction de Dieu aboutit à la joie. Et pour faire un écho à cette parole, je cite une parole de l'apôtre Paul dans son discours à Lystre. Et que dit-il aux Grecs de cette ville ? Dieu n'a pas cessé de rendre témoignage à sa bonté, car il vous envoie du ciel la pluie et des fruits abondants en leur saison. Oui, c'est lui qui vous donne la nourriture en abondance et comble vos cœurs de joie. C'est lui qui vous donne la nourriture en abondance et comble vos cœurs de joie. » Et je rappelle que cette parole ne s'adresse pas à des chrétiens, mais à des païens, c'est-à-dire à tous les êtres humains. À tous les êtres humains, Dieu accorde de savourer les fruits de la nature et d'en tirer une joie abondante. Et puis, bien sûr, il y a dans la Nouvelle Alliance, dans l'Évangile, les joies venues par le Fils de Dieu qui est venu sur la terre. La grande joie de sa naissance, il vous en est un sauveur. Des chants de joie dans le ciel parce que Jésus est né. Et celle que Jésus donne à ses disciples, je vous donne ma joie, et ma joie en vous sera parfaite. Et nul ne vous ravira votre joie, celle que je vous donne. Et les disciples, en voyant Jésus ressuscité, laissèrent éclater leur joie. Et ça va même encore plus loin, et dans une dimension encore plus vaste. Nous lisons dans le livre des Proverbes un beau passage qui décrit la sagesse, et c'est une image par laquelle nous pensons qu'est décrit la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus avant sa venue sur terre, le Verbe incarné. La sagesse qui, nous dit le sage des Proverbes, faisait tous les jours les délices du Dieu bienheureux. La sagesse faisait tous les jours les délices du Dieu bienheureux. Et à la fin, dans la parabole des talents, le maître dit aux serviteurs qui ont bien accompli leur tâche, « Entre dans la joie de ton maître. » La joie dépasse même l'histoire. Elle est avant le temps et après. La joie est par excellence le don de Dieu pour l'être humain, sa créature. C'est le témoignage de sa bonté comme nous l'avons vu. Et nous sommes appelés tout simplement à le reconnaître, à le saisir et à en profiter. Reconnaître les bienfaits que Dieu accorde, les savourer, en profiter et en être reconnaissant. Se réjouir de tous les biens que le Seigneur accorde. Les premiers chrétiens allaient dans le sens de cette parole parce que dans le quotidien, nous lisons qu'ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils prenaient leur nourriture avec joie. Voilà. Ils mangeaient avec le fait de savourer ce qu'ils avaient et la reconnaissance pour l'avoir. Cette joie reconnaissante, c'est quelque chose qui s'apprend. Nous sommes exhortés à cela, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Nous sommes exhortés à reconnaître ces bienfaits que le Seigneur nous accorde. L'apôtre Paul a dit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Et même ceux qui font du bien sont exhortés à le faire avec joie. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Et puis à tous les textes que nous avons cités au début dans notre lecture. Cette joie, don de Dieu, c'est celle dont on connaît l'origine et les effets. C'est celle dont on prend conscience quand on pense à ce qui est avant, le fait que le Créateur a fait et nous a donné, et le fait que le reconnaissant ainsi, nous sommes invités à la reconnaissance, à savourer ces choses que Dieu nous donne, avec reconnaissance, en sachant de qui nous les recevons, à qui nous les devons. La joie est donc bonne par nature. Mais il faut faire un pas de plus et dire que les objets ou les faits qui procurent la joie, ainsi que les moyens employés pour atteindre la joie, eux, par contre, ne sont pas toujours bons. Et là, nous rejoignons l'autre versant de ce que nous dit l'Ecclésiaste. Et d'abord, cette réalité que tout être humain est pécheur. Et que la création tout entière a été blessée par le péché. Et par conséquent, il y aura aussi des jours mauvais. Et il y aura aussi des joies mauvaises. Je reviens un instant sur le texte adressé aux jeunes gens. Réjouissez-vous dans votre jeunesse, que votre cœur soit en fête au jour de votre jeunesse. Suivez les élans de votre cœur et tout ce qui vous fait plaisir. Mais sachez, n'oubliez pas que Dieu vous demandera compte de tout ce que vous faites. Bannis le chagrin de ton cœur, écarte la souffrance, car la jeunesse, comme l'aurore, passe bien vite. Tiens compte de ton Créateur, au temps de ta jeunesse, avant que n'adviennent les jours mauvais, et avant que ne viennent les années dont tu diras « je n'y prends pas de plaisir ». Alors, est-ce que Dieu, finalement, si on ose employer cette expression, serait rabat-joie? Est-ce qu'il donnerait d'une main pour reprendre de l'autre? Est-ce qu'il nous donnerait de la joie pour que tout de suite on soit sous la chape de plomb d'une grande inquiétude sur la nature de cette joie? Non, ce n'est pas ainsi qu'il faut présenter les choses. Dieu donne de vraies joies. De vraies joies de la vie, lorsqu'on se souvient de celui qui les donne. C'est cela le chemin de la vie. Et je me permets de relire encore un passage bien connu des Proverbes. C'est l'enseignement d'un père à son fils. « Mon fils, n'oublie pas mes instructions et que ton cœur retienne mes commandements, car ils rallongeront tes jours. » Et ils ajouteront des années à la durée de ta vie et t'assureront le bonheur. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre sagesse. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, révère l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tes revenus. Alors, tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'en inquiète pas, car c'est celui qu'il aime que l'Éternel reprend, agissant comme un père avec lui, avec l'enfant qu'il chérit. Savoir savourer la joie quand elle est là, quand les circonstances sont favorables, c'est à la fois la sagesse et la ligne de vie que Dieu nous propose. Quand le temps de la joie est là, savourons la joie. Car le temps passe et les circonstances changent. S'il y a des jours heureux, il y a des jours mauvais, des jours d'accident, de maladie, de rupture, de conflit, de catastrophe. Ces jours mauvais, à un moment ou à un autre, sont le partage de tout être humain. Ils émaillent dans des proportions et avec des effets différents, bien sûr, la vie de chacun. C'est pourquoi au jour du bonheur, savoure le bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. Car il y a de mauvaises joies. Un autre texte du sage. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parce que si le cœur se détourne de Dieu, en négligeant les instructions qu'il a données et les avertissements qui viennent de lui, alors on peut tomber dans cette autosatisfaction dangereuse de celui qui dit en lui-même, c'est un texte du Deutéronome, « Tout ira bien pour moi si je suis les penchants de mon cœur. » C'est la même expression que celle qu'a employée l'Ecclésiaste pour dire aux jeunes gens, « Suis les penchants de ton cœur, mais sache que pour tout ce que tu fais, Dieu t'appellera en jugement. » Si tu oublies Dieu, si tu le négliges, si tu le mets de côté, et si tu te retournes sur toi-même uniquement en disant, « Tout ira bien pour moi si je suis les penchants de mon cœur, » il faut lire la suite, « et j'ajouterai l'ivresse à la soif. » Alors tout n'ira pas bien pour toi, dit Dieu. Les châtiments de Dieu tomberont sur toi. C'est ce texte qui décrit les bénédictions et les malédictions. Pour faire écho à cela, il y a dans l'Évangile la description de ce riche qui est lui aussi auto-centré et qui dit « J'ai beaucoup de biens en réserve pour beaucoup d'années. Mange, bois et te réjouis, je vais détruire mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, etc. » Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens, mange, bois et te réjouis. Point. Non. Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais. C'est donc ici la source même de la joie qui est perverse, qui est mauvaise, par oubli de Dieu, par ingratitude et par égoïsme. Il y a d'autres joies mauvaises. Elles sont décrites dans l'Écriture, je ne fais que les énumérer. La joie mauvaise est défaite d'un Israël qui s'est détourné de Dieu et qui est devenu idolâtre. Il a tourné le dos à Dieu et il a désobéi à tout ce que Dieu enseigne. Et Dieu dit, je ferai cesser les joies et les fêtes d'Israël. Israël, dit Dieu, ne te livre pas à la joie dans ces conditions-là. Job, en faisant un bilan de sa vie, dit que si par malheur il lui était arrivé de se réjouir du malheur de son ennemi, alors il accepterait le châtiment. La joie des pharisiens devant la trahison de Judas. Ils se réjouirent que quelqu'un puisse enfin leur livrer Jésus. La folie est une joie pour l'insensé. Alors, il faut venir à cette dernière partie qui a l'air de dire un peu l'inverse de ce que nous avons énuméré comme source de joie jusqu'à présent, les bonnes sources de la bonne joie. Pourquoi ? De notre côté, l'Ecclésiaste nous dit « Mieux vaut le chagrin que le rire, mieux vaut aller dans la maison du deuil que dans la maison où l'on festoie, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » L'Ecclésiaste aurait-il retourné sa veste ? Vient-il d'une fête qui a mal tourné ? Ou fait-il une déprime ou une crise de pessimisme ? Non, car il sait ce que La Fontaine savait, et pourquoi je vous ai lu la fable au tout début, le sage sait qu'en toute chose, il faut considérer la fin. C'est elle qui, dans chaque cas, donne la valeur, le poids, la mesure, le sens de ce qui a été vécu. Il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. On ne peut pas rire tout le temps. Chercher la joie pour elle-même, c'est se condamner à ne pas la trouver. Le rire des insensés est comme le bruit des épines sous la chaudière, avons-nous lu. Dans le langage des écrits de la sagesse, il est question d'un terme traduit par les insensés ou les sots. Ce terme désigne ceux qui ne font aucun cas de Dieu et de sa loi, ceux qui méprisent sa révélation, ainsi que les conseils des sages, qui détestent la connaissance, ainsi que toute correction, pour vivre à leur guise. Et c'est ici, nous l'avons bien compris, que se fait la différence, que se fait le partage, que se fait l'opposition entre d'un côté la joie faite de la connaissance, faite dans les deux manières de l'écrire, faite de festoyer et faite de faire. Celle qui connaît d'où lui vient la joie qui est la sienne, faite de la connaissance et de la reconnaissance, faite du don reçu, mais reconnu comme don et comme don de Dieu. Du coup, faite du souvenir, de l'avant la joie, et faite de l'espérance, de l'après la joie, de celle que Dieu a décrite pour son peuple au final. Une joie éternelle couronnera la tête du peuple de Dieu. D'un côté, cette joie-là, celle que Dieu a voulu pour l'être humain, et celle qu'il continue à nous donner malgré le mal et le péché. Et puis, l'autre dont nous avons aussi parlé, qui est le contraire, qui est la fête de l'oubli, de l'inconscience, de l'autosatisfaction, de l'insouciance, de l'instant présent et de la superficialité. De moi, par moi et pour moi. Pourquoi encore, dit l'Ecclésiaste, mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans celle où l'on festoie? Parce que la maison du deuil nous rappelle quelle est la fin de tout être humain, et le texte le précise, il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est encore en vie. La fin d'une vie nous ramène au réel, en mettant en évidence par contraste notre vanité et nos illusions. Au jour du bonheur, nous le rappelons, savoure le bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. Il nous faut conclure. Nous avons un roi dans l'Ancien Testament qui a vécu pour ses plaisirs. Et à la fin de sa vie, Dieu a envoyé, au cours d'une de ses fêtes, une main pour écrire sur la muraille. Et le roi a cherché par tous les moyens à connaître la signification de cette écriture. Et personne ne pouvait lui donner l'explication, sauf Daniel, qui est venu pour dire au roi, ces mots gravés sur la muraille, c'est compter, peser, diviser. Dieu a compté tes jours et y a mis fin. Tu as été pesé à la balance et tu as été trouvé léger. Ça, c'est une parole à laquelle il faudrait penser de temps en temps. Tu as été pesé à la balance et tu as été trouvé léger. Je pense que beaucoup d'éléments que nous offre le monde sont de cette nature-là. Et s'y attacher, c'est s'attacher à l'inconsistance. Et si on ne vit que de cela, on risque d'être trouvé léger. Il y a des fins provisoires. Je vais bientôt m'arrêter de vous parler ce matin. Il y a la fin d'un film, la fin du culte, la fin de la colo, la fin d'un repas. On se lève et on s'en va. On y pense et on oublie et on passe à autre chose. Mais lorsqu'arrive la fin de la vie, là, on ne peut pas revenir en arrière. On a bien profité de la vie ou pas ? Mangeons et buvons, disait le riche insensé, car demain nous mourrons. Mais demain, en mourant, on entre dans l'éternité. Et il est insensé de se dire qu'il n'y a plus rien après la mort. Ce n'est pas pour rabattre la joie. Ce n'est pas pour la mettre sous l'éteignoir. Ce n'est pas pour lui poser dessus une chape de plomb, comme s'il fallait vivre dans la peur. Ce n'est pas pour stériliser la vraie joie que Dieu appelle simplement à être vigilant sur la nature de la joie. Ce que Dieu veut, c'est que notre joie soit vraie, qu'elle soit pleine, qu'elle soit durable, qu'elle ne soit pas la joie des insensés, qu'elle soit la joie de ceux qui croient en Dieu et qui savourent le bonheur qu'il donne à ceux qui se confient en lui. C'est la joie de Jésus, Jésus qui est venu sur la terre, marcher au milieu des humains, il a quitté la gloire céleste pour être avec les êtres humains. Et pendant des années, il a marché sur cette terre des hommes. Et Jésus n'a pas cessé de dire à ceux qu'il a éduqués, qu'il a amenés avec lui, à ses disciples, et il l'a dit presque plus fort en arrivant à la fin de sa vie, alors qu'il s'approchait de la croix, qu'il leur donnait sa joie et qu'il leur donnait une joie pleine et entière, une joie parfaite, celle que Jésus donne pour toujours et dont il dit « Nul ne vous ravira votre joie ». La dernière parole que je voudrais prononcer sur ce thème, ce serait de dire que la joie que Dieu donne à ceux qui se confient en lui, c'est à la fois la joie des noces de Cana et la joie des noces de l'agneau. Vous voyez à quoi je fais référence? Jésus a été dans un mariage et il n'y avait plus de vin. Et la mère de Jésus est venue leur dire, ils n'ont plus de vin. Et Jésus a transformé l'eau en vin, et en bon vin. C'est une mention qui pourrait paraître anodine, mais quand l'ordonnateur du repas eut goûté le vin, il a dit au maître de la maison, mais comment ça se fait que tu as gardé le meilleur pour la fin? Jésus a fait du très bon vin. Les joies des noces de Cana auxquelles Jésus a participé avec ses disciples, et les joies, autrement dit les joies de la vie, les joies de la terre, les joies naturelles et les joies des noces de l'agneau, entre dans la joie de ton maître, entre dans la fête finale et définitive et éternelle que connaîtront tous ceux qui ont mis dans le Seigneur leur confiance. La joie de l'Éternel est et sera notre joie et notre force. Amen. Notre frère Sigère nous a conduits dans la méditation.